j'ai rencontré le Crétin des Alpes à la fois un peu comme tout le monde, en étant un lecteur de Tintin, vous l'avez dit, et puis aussi lecteur d'autres choses, par exemple Élisée Reclus consacre un chapitre entier de l'histoire d'une montagne au Crétin. Et puis en marchant dans les Alpes, puisque je suis assez marcheur, on rencontre parfois, enfin, rarement, mais quand même parfois des traces comme des traces archéologiques, des ruines, on va dire, de tout ce qui a été l'accueil des Crétins, notamment un certain nombre d'hospices, d'instituts, voilà, il en reste des traces, on passe parfois par là, et donc voilà, cette présence m'a un petit peu interpellé, je dirais, et j'ai voulu mener l'enquête, sans doute aussi parce que moi-même je me sens parfois aux limites, disons, d'une forme de crétinisme.
Bon, on est peut-être tous un peu crétins quelque part, mais quels étaient vraiment, si on parle au niveau clinique, là, des principaux symptômes crétinisme?
Ça, c'est quelque chose qui est très, très précis et très. C'est une pathologie qui a été décrite de façon très précise tout au long du 19e siècle. Donc, le crétinisme, c'est un problème de carence en iode, en fait, qui dérègle la thyroïde de façon très grave et qui cause toute une série d'arrêts de la croissance aussi bien physique que mentale. Et donc, on se retrouve avec des cas pathologiques lourds d'hommes et de femmes, d'aspect débile et de nains, souvent, avec des signes physiques extérieurs qui sont très parfois assez spectaculaire, notamment le goitre. Le goitre a été un des grands symptômes du crétinisme.
Donc la figure du crétin des Alpes était ambivalente un peu à l'époque. C'était à la fois quelqu'un qui était considéré comme maudit, mais aussi un peu l'incarnation d'une forme d'innocence.
Oui, c'est vrai que le crétin était. Les crétins déjà étaient assez nombreux. Alors moi j'ai des chiffres français, par exemple, à la fin du 19e siècle, on estime qu'il y a à peu près 20 000 crétins dans les Alpes françaises. Je pense qu'il y a à peu près le double de goitreux. Donc c'est une présence qui n'est pas massive, évidemment, mais qui est quand même suffisamment importante pour être très généralement distribué dans les villages alpins, dans les communautés alpines. Donc chaque village avait en gros son ou ses crétins et pouvait manifester un certain attachement à ces crétins, parce que effectivement il y a cette idée d'une forme d'innocence, d'élection divine presque, et du coup de mascotte de cet être qui par son innocence parlerait directement au divin et protégerait en quelque sorte la communauté, le village. Mais enfin, les crétins apparaissent quand même généralement dans le paysage plutôt comme une sorte de tache, je dirais, dans le paysage, puisque ceux qui les ont beaucoup fait apparaître, ce sont les écrivains, en tout cas les voyageurs qui ont écrit leur récit de voyage dans les Alpes. C'est vraiment un genre très important à partir de la fin du XVIIIe siècle et tout au long du XIXe siècle. Et on trouve beaucoup de descriptions de ces voyageurs où, tout d'un coup, au milieu de ces montagnes sublimes et de ces paysages magnifiques et grandioses, voilà, il y a une tache, c'est le crétin. Et donc, cette tache apparaît comme à la fois une sorte de monstre et, de bizarrerie de la nature. Et donc, on s'est beaucoup interrogé sur pourquoi, comment, pourquoi est-ce que ces crétins sont là et à cause de quoi ils ont été réduits dans cet état.
Dans les causes de cette maladie, finalement, il y a eu diverses explications multiples avant d'arriver à la bonne solution.
Oui, alors le crétin, comme il apparaît dans ces textes, devient assez vite une grande cause médicale. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de médecins qui, d'abord plus précisément dans les Alpes, puis ensuite au niveau national, vont s'intéresser à ce crétinisme. C'est une pathologie qui est décrite donc relativement tôt. Elle est étudiée massivement. On peut dire que moi je parle d'une sorte de science de l'Alpe, Pour la France, par exemple, on compte près d'une centaine de thèses de médecine au XIXe siècle sur le crétinisme alpin. Donc, et il y a ensuite des grandes enquêtes. Alors, il y en a un peu partout où il y a des crétins, notamment dans le Valais, dans le Val d'Aoste, en Savoie. Voilà, ces enquêtes sont menées par les autorités sanitaires au plus haut niveau. Et donc, on peut vraiment parler d'une sorte de mobilisation de la médecine autour du crétinisme. Et c'est une mobilisation qui, à la fois, permet de bien connaître, mieux connaître le phénomène, de répondre à la question étiologique, pourquoi, quelles sont les causes du crétinisme. Et ça, en même temps, ça brouille sûrement un petit peu la réponse. C'est-à-dire que la multiplication des causes avancées, je crois qu'une thèse de médecine à la fin du 19e siècle avance 42 causes possibles du crétinisme. Et donc, voilà, la multiplication des causes va faire que le traitement va être finalement retardé assez tardivement. Alors, parmi les causes, on va trouver la principale cause pendant longtemps, notamment tout au début du 19e siècle, c'est le climat. Ce sont les climatologues, voilà, comme Saussure, par exemple, qui est un grand climatologue dans son interrogation sur le crétinisme, qui pense que ce sont des masses d'air qui stagnent en milieu de vallée et qui, voilà, là où il y a cette humidité, il y a le développement du crétinisme. Il y a aussi des causes sur le côté reculé des vallées, la consanguinité, l'hygiène, la mauvaise qualité des eaux, voire parfois des causes raciales. J'ai trouvé un médecin qui développe l'idée que les crétins seraient la pointe la plus dégénérée des Huns qui auraient envahi les Alpes et qui seraient restés là sous cette forme-là un peu dégénérée. Donc on trouve énormément de causes et c'est un phénomène assez connu en médecine. C'est cette multiplication des causes d'une maladie, pour vérifier toutes ces causes, pour se mettre d'accord entre des médecins qui sont parfois rivaux, etc. Ça cause souvent un retard dans le traitement de la maladie.
Alors cette maladie sera traitée en définitive par l'apport d'iode dans le sel. C'est la Suisse qui va mener cette politique d'ajouter de l'iode dans le sel pour éviter cette forme de crétinisme. On sait que dès 1820, c'est un savant genevois qui avait découvert finalement que un traitement à base d'iode pouvait éradiquer cette maladie.
Oui, tout à fait. Oui.
Et puis, par contre, oui. Si vous permettez, cette figure du crétin, elle va perdurer après l'éradication de la maladie. Elle va même devenir parfois un élément de fierté. Et dans votre livre, vous associez le crétinisme à un trio d'humoristes bien connu dans l'arc jurassien, à savoir Plonk et Replonk. Comment on peut faire le lien entre ces deux éléments?
Alors, je pense que c'est vrai que le crétinisme a été éradiqué dans les années 1920 à peu près. Et il y a un moment où le crétin, en disparaissant de la réalité alpine, va envahir l'imaginaire. Donc c'est très net chez un certain nombre d'écrivains. Et pourquoi est-ce que il envahit l'imaginaire? Quel rôle, quelle fonction le crétin peut jouer chez un certain nombre de poètes, d'écrivains, puis ensuite de cinéastes, dans la bande dessinée, dans les humoristes, comme vous l'avez dit? Je pense que le crétin signifie une sorte d'attachement, de refus de la modernité, en fait, voilà, d'attachement aux origines. Et le premier à faire jouer ce rôle au crétin, c'est un autre genevois, c'est Rodolphe Töpffer dans ses Voyages en zigzag, qui parle des crétins et qui dit que, en fait, les Valaisans, les Suisses, les Genevois doivent être fiers du crétin parce que il serait le garant, en quelque sorte, d'une tradition, qui serait la tradition alpine et qui serait notamment le refus d'une certaine modernisation à tout va, d'une modernisation brutale et notamment d'une modernisation touristique, de la montagne.